Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est le sacrifié de la société que nous allons entendre, deuxième épisode du documentaire de Yann Siret, Pier Paolo Pasolini, le procès interdit, que proposait Surpris par la nuit en 2009. Ce documentaire avait choisi de faire de l'assassinat de Pasolini sur la plage d'Ostie le moment à partir duquel était interrogée la complexité, les ambiguïtés et les apparentes contradictions de l'homme et de son œuvre. Dans sa deuxième partie, il tentait notamment de dire comment, à sa manière, Pasolini avait été chrétien, catholique, marxiste, communiste et antifasciste, toujours à sa manière, et comment cela s'était traduit dans ses films, dans sa poésie, dans ses prises de position politique. Pasolini, un formidable exemple vivant, paradoxal, singulier, d'intellectuel engagé, écrivait dans Le Monde diplomatique en 2006 Guy Scarpetta, qui précisait « Pasolini, d'évidence, n'était ni un intellectuel de parti, docile, chargé d'appliquer la ligne, ni un intellectuel organique, au sens d'Antonio Gramsci, chargé de contribuer à l'hégémonie culturelle du bloc historique prétendant au pouvoir, ni même un écrivain engagé selon le modèle sartrien, détenteur du sens de l'histoire et subordonnant toute pratique d'expression aux exigences d'un combat collectif. Plutôt, quelqu'un pour qui la tâche d'un artiste ou d'un intellectuel, dès lors qu'il se veut solidaire des damnés de la terre, entre guillemets, est de mettre en crise et de subvertir les conceptions du monde dominante, d'explorer le non-dit des représentations convenues, y compris le cas échéant celle de son propre camp, de faire surgir le refoulé du consensus social et culturel sans rien céder jamais sur sa singularité. Pier Paolo Pasolini, le procès interdit, le sacrifié de la société, deuxième d'un documentaire en trois épisodes, diffusé la première fois le 4 février 2009 sur France Culture.
Surpris par la nuit.
Comme toutes les comètes, la comète que j'ai suivie moi-même était aussi une connerie. Mais sans cette connerie, Terre, je ne t'aurais pas connu. Et il se passe la main sur les yeux pour sécher quelques mystérieuses larmes de gratitude.
Grand prix spécial du jury. Il fiore delle mille e una notte, le mille et une nuit. Italie.
J'ai quelque chose à vous dire. Ce scénario magnifique, porno, Théo colossal, Pasolini n'a pas pu le réaliser alors que ce scénario était terminé. En effet, il est mort dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, dans la nuit qui sépare la fête des morts et la fête de tous les saints. On l'a trouvé assassiné sur une plage à Ostie.
Lei non ha speranze?
No.
Vive giorno per giorno?
Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco.
Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale.
Il successo non è niente, che cos'è? Dare un successo.
Cosa è per lei il successo?
Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione.
Buruma on fire. more than 50 houses burnt after a morning raid by armed youth.
Arrival group emerged and the war went on for hours. En un galop sauvage, à travers les horizons éventrés, désertiques, envahis d'un funèbre fumier, la quantité, l'immensité qui pèse inutilement dans le monde, dont les prés brûlés ou pourris d'humidité sont une étendue privée de toute possible poésie, chose brute restée là, aux origines, sans attente, sous un soleil mécanique que, chargée d'ans et à peine née, elle subit comme une infinité. Il en est une bestiale couleur rose, où le sexe paysan qu'ils ont tous dessiné dans des pantalons de joyeux coton, dans des jupes achetées dans les boutiques indiennes, avec des soleils aux multiples yeux et des roues de pan, flotte comme une île dans un océan encore agité par une explosion récente et engloutie dans les marées. Des fleurs en coton d'une seule couleur avec des yeux multiples et des roues peuplent les Guinées, flottant dans la puanteur d'un meurtre, dans la chair toujours cruelle des étés, à dévorer des nourritures auxquelles la nuit donne les teintes équatoriales de la mort précoce, le bleu et le violet et l'horrible poussière, la liberté qui enfante le peuple avec une voix.
Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Deuxième partie, le sacrifié de la société.
Funebri estati di Allah, pattuglie egiziane sparano. Funebri silenzi di Allah, miserabili uomini di colore sparano.
Après Gramsci, son maître politique, Pier Paolo est le personnage le plus complexe d'Italie. C'est un des plus complexes du monde. La sexualité anale détruit l'ego. L'unique héros de Pier Paolo, c'est Jésus. C'est sa mère qui joue le rôle de Marie, au pied de la croix. Comme Jésus, le marginal acatone meurt assassiné dans une favela romaine. Et le reste est silence. Ou bien c'est le cri du peuple, mais pas ce peuple aliéné par le développement technologique capitaliste, le peuple libéré du tiers-monde, les barbares chrétiens dans les catacombes de la vie, la communication sexuelle, comme force capable de dépasser le dur langage armé des mâles. Un ou plusieurs mâles ont tué Pier Paolo. Il est mort comme chez Guevara, dans un maquis de guérilla, contre les forces irrationnelles du machisme, comme Janis Joplin en hurlant que la liberté c'est de n'avoir rien à perdre, comme Jimi Hendrix en déstructurant le son du système, comme les garrotés espagnols, ou comme les victimes des dictateurs de Babylone, du Vietnam, d'Angola et de Rome sous la lune noire du fascisme renaissant. Pasolini joue les quatre rôles, Christ, Œdipe, Sade et Marx. Il devient le transgresseur numéro un de l'Europe 60. Godard est un cinéaste, Pasolini, c'est un mythe qui fait des films. Pier Paolo, Dieu et Diable, Glauber Rocha.
Il faudrait faire un discours beaucoup plus large autour de Pasolini, je crois. C'est-à-dire arriver à le comprendre dans ce qui est l'intellectualité italienne.
Tony Negri.
Qui n'a jamais été une intellectualité engagée. Même avec le Parti communiste, ce qui était lié au Parti communiste, c'était pas comme ici, il n'y a jamais eu un Aragon ou un Sartre. Il n'y a jamais eu ça. En Italie, c'est tout beaucoup plus fluide et ambigu. Et il n'y a jamais eu une fonction révolutionnaire de l'intellectuel, une avant-garde.
Et vous pensez, quand vous faites un film comme ça, que ça a une valeur de film militant ou pas du tout?
Oui, il est un film militant parce que les problèmes comme le problème du rapport entre l'ancien capitalisme et le nouveau capitalisme, etc., sont problèmes d'actualité. Mais la forme n'est pas militante. Peut-être les jeunes étudiants italiens, peut-être, n'aimeront pas beaucoup le film parce qu'il n'a pas l'air de la lutte pratique, comment dire, de la lutte dans les barricades, vous savez. La forme est très distanciée, on dit comme ça, très cristallisée.
Certaines fois, je me demande, quand je suis méchant, quelle aurait été la position de Pasolini devant la Ligue du Nord en Italie? ces mouvements populistes du nord d'Italie, qui, eux, ils se disent pasoliniens.
Ils l'ont récupéré.
Ils essayent de récupérer, ils n'y arrivent pas parce que Pasolini, c'est le cinéma de Pasolini, salaud. Ils n'arriveront jamais, même pas là, à s'approcher à ça, non? C'est des choses tellement formidables et d'une violence antipopulaire.
Que Sodome est une ville.
Porno théocolossal.
Où tout le monde est pédé. Tous des pédales.
Lecture Jeanne Moreau.
Et alors, pour survivre, lui aussi, il l'admet. Il a toujours fait semblant d'être une pédale et il fait l'amour avec des hommes. Bref, il s'est adapté aux normes et aux coutumes de la ville de Sodome. Il est, il a toujours été, musicien de rue, de profession, mais vu qu'il est particulièrement doué et qu'il a eu aussi un peu de chance, depuis quelque temps, il va chanter ses chansons dans le palais même des chefs de la ville. En attendant, il conseille à Eduardo et à Ninetto pour le logement, une de ces petites pensions sympathiques où on mange bien, où on dort bien, et les voilà, regardez là-bas, au fond de la petite rue, tortueuse, avec des vieux pavés.
Oui, parce que l'engagement en Italie est toujours une forme de moralisme. Et alors, pour être engagé, il faut trahir soi-même in quanto.
En tant que?
En tant que lettré, en tant qu'intellectuel. C'est pour ça que a été très populaire en Italie l'idée du suicide de l'intellectuel, que pour moi c'est une idée enfantine.
En général, il y a des films de Pasolini, je ne sais pas moi, Uccellacci, Uccellini, Uccellacci, par exemple, ce sont avec Toto, il transforme vraiment la comique italienne la plus vulgaire, si vous voulez, comme ça, et la plus puissante d'autre part, non? Il transforme dans une figure d'une poésie exceptionnelle, ça, ce sont les grandes choses de Pasolini. Cherchez au-delà de ça, non? De ces chefs d'œuvre dans lesquels il a essayé de faire sa vie aussi, mais il n'a pas réussi. Hein.
Presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto.
Io sono Ninetto, di innocenti Totò e di semplicenti Grazia.
Toutes ces prises de parole et de position ne sont possibles que parce qu'à un moment donné, Pasolini décide de faire du cinéma.
Jean-Paul Manganaro.
Sa participation aux journaux italiens, c'est vrai, mais parce que c'est devenu un lieu, non seulement de parole, mais de combat aussi, et qui est souhaité, désiré par les journaux eux-mêmes, enfin les grands journaux italiens, La Stampa, Le Corriere della Sera, ce sont des journaux qui ont toujours engagé des écrivains en leur offrant effectivement ce podium. Enfin, et il ne s'en prive pas. Il n'y a pas que Calvino et Pasolini, il y a aussi Fortini qui est une personnalité extrêmement importante du débat politique italien et aussi du débat politique. Enfin, tout le monde à vos fois a écrit cette double activité, mais qui était aussi, qui correspondait à la figure post-sartrienne de l'intellectuel engagé, en fait.
Chi me frega? Ma che me ne frega a me? Alla stalla penso io, a quelle povere vacche che le mosche se le stanno mangiando vive. Un po' di coscienza ci vuole. Apposta tutta la notte si lamentano quelle povere vacche.
Ça c'est important, et donc ça crée un brassage d'idées énormes, extrêmement important. Aujourd'hui on ne peut plus l'entendre comme un bruit de fond de société, en fait. Il n'y a plus... Certains débats sembleraient aujourd'hui dépassés, en fait, même s'il serait très important de méditer certaines pages des uns et des autres. Enfin, le problème n'est pas que Calvino ait raison sur Pasolini, ou Pasolini sur Fortini, ou Fortini sur Calvino et Pasolini, etc. L'important, c'est que ce débat ait eu lieu, qu'il ait été entendu, qu'il ait produit quelque chose.
Sono reduce d'un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no?
No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io, penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutto più vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non la scandalo.
Qu'est-ce que ça produit d'abord? Ça produit l'habitude à discuter la différence, à discuter des problèmes comme pouvoir, comme celui de la démocratie chrétienne, n'a aucun intérêt à tenir en alerte. Enfin, donc c'est une voie de résistance à l'intérieur de cette catégorie de l'immutabilité qu'est la démocratie chrétienne, flanquée par le Vatican, du moins à partir d'un certain moment.
Guarda, come mai sei qui? Con che faccia ti presenti a casa mia?
Oedipe Roy.
Mentre ormai è chiaro come il sole che vuoi togliermi di mezzo e impadronirti del mio regno. Sei venuto qui magari perché mi credi un vile o un pazzo. In cosa speri? Il popolo e il potere sono tutti dalla mia parte. Tu non hai niente in mano. Non vorrai dirmi che sei innocente, che non hai alcuna cattiva intenzione contro di me. Non sei stato tu a convincermi a interrogare Tiresia. Quanto tempo è passato da quando Laio...
Laio?
Da quando Laio scomparve, ucciso, senza lasciare traccia.
Molto tempo è passato.
E Tiresia allora? Non faceva profezie?
Sì, tra la stima di tutti, come oggi.
E non accennò mai a me per caso, nelle sue profezie.
Almeno in mia presenza mai.
Scherzi sui... sufficientemente
sufficientement
vie pour faire ma autobiographie et le dit Proa c'est ma autobiographie ma je suis un petit bourgeois et je odio comme on dit odio j'ai de la haine pour la petite bourgeoisie
j'ai haine
pour la petite bourgeoisie et aussi pour moi. Alors je peux parler de la petite bourgeoisie et des petits bourgeois seulement dans la mesure que la petite bourgeoisie devient mythique. Et alors j'ai choisi le mythe d'Oedipe pour parler de moi et de mon problème, de ma psychologie, des petits bourgeois, c'est mais dans les mythes.
Il y a un peu de tellement dehors de la norme que je me sens isolé comme un condamné à mort. Et en effet, entre un amour dans des maisons en ruine et fétides et l'amour dans des chiottes, entre un amour avec de doux singes en troupeau couverts de t-shirts, avec le voilier de Saint-Tropez sur la poitrine, le pantalon à 2000 lire et un amour. Odeur de corps et de sexe non lavé, il ne me reste qu'à prendre pour objet de ma poésie la poésie, si tout le reste est désormais sous la sphère d'une mort hideuse. La chair veut le sang.
Le personnage de Théorème que nous présente comme l'ange de la visitation, si vous voulez, et qui révèle tous ces gens-là à eux-mêmes, ce n'est pas toujours très lisible. C'est plutôt l'ange du démon, enfin, dans un certain sens, oui, il m'a semblé.
Pourquoi pas? Vous avez lu le film d'une façon qui est possible, pourquoi pas? Il n'est pas un dieu, il est une théophanie, ou c'est mieux encore dire une hiérophanie, c'est l'apparition du secret. Le secret qui peut être du mal et du bien. Et vous savez que l'historicien de la religion dit que le bien et le mal sont toujours mêlés dans Dieu. Comme la virilité et la féminilité sont toujours cachés. Les dieux sont toujours androgènes. Et alors, vous savez, c'est un dieu archaïque dans les films. C'est le contraire du manichéisme. Et il n'est pas un dieu qui peut être interprété dans le cadre de la sotériologie. Il ne vient pas sur le monde pour sauver, pour évangéliser. Il vient pour être connu. Et après, il est disparu.
Je savais par Bertolucci qu'il était très content de ce que j'avais fait, mais je pensais lui être très antipathique.
Anne, Wiazemski.
Et lui pensait la même chose. Donc il l'a écrit, Porcherie, pour moi, mais en disant à son producteur, elle ne voudra pas. Il faut que vous me trouviez une fille comme elle. Donc lui, il a eu l'intelligence quand même de m'appeler à Paris, et bien évidemment, le malentendu a été levé. Et à partir de là, ça a été un tournage absolument merveilleux, d'une semaine en ce qui me concerne, toute petite, comme il aime, c'est-à-dire toute petite équipe, à Padoue en janvier ou février. Et là, à l'inverse, on était tout le temps ensemble.
J'écris le texte Pocherie avant le mouvement des étudiants, quand tu étais en train de commencer, vous savez.
Tu es du côté de ton papa, qui veut le néant comme toi veut le pouvoir.
Ton papa aussi a le pouvoir.
Moi, si tu étais noir, je t'aimerais quand même.
Et là, par contre, il y avait des tonnes de textes. Donc ma préoccupation, pour moi, c'était d'apprendre mon texte, que je savais, à l'inverse de Jean-Pierre Léo, qui n'y arrivait absolument pas, et qui avait Jean-Claude Biette comme coach. Et il y a vraiment des plans entiers où, vous savez, quand on se répond d'un bout à l'autre, comme ça, j'avais mal fou à garder mon sérieux, parce que je voyais Biette qui rampait entre les jambes de Jean-Pierre pour lui souffler le texte.
Je me gratte la tête. Tout cela ne m'intéresse pas. Mes 50% conformistes s'ennuient. Mes 50% révolutionnaires sont en suspens. L'ensemble veut rester tranquille. À profiter.
De quoi ?
Ce que je disais avant. Oui, la chose que je ferais pendant que vous pisserez contre le mur de Berlin. Sous des affiches bêtement puritaines.
Si tu me dis ce que tu feras, pendant que tous les camarades, ceux qui sont les meilleurs de notre pays, manifesteront pour la première fois, je serai plus héroïque que mon héroïsme, Julien. Je les trahirai et resterai ici avec toi.
On m'a raconté, bien sûr que c'est vrai, qu'il a été d'une dureté, enfin d'une inhumanité sur la partie de l'Etna, où lui, bien couvert, etc., n'hésitait pas à faire un nombre de plans énormes de gens nus, morts de froid, sans absolument insensibles.
Les animaux qui sont morts aussi.
Il y avait une boule de colère, enfin qui. Ça aussi, c'était tangible chez cet homme, par ailleurs très doux.
Le point de vue, c'est très différent. Quand j'écris les textes de Porcherie, que maintenant. Vous savez, dans les films, c'est Anne Wiesemski qui représente la typique jeune fille contestataire, avec les défauts et avec l'idéalisme et l'enthousiasme de sa position, de sa condition.
C'était toujours Laura Betti qui téléphonait de sa part à Jean-Luc pour moi. C'est-à-dire, oui. Au fond, moi, j'étais une espèce de petit objet, et l'autre qui n'adressait pas la parole. Donc, on avait deux ambassadeurs qui parlaient pour nous.
Mais il y a une chose étrange, cependant. Comment le cinéma italien a-t-il pu devenir si grand, puisque tous, de Rossellini à Visconti, d'Antonioni à Fellini, n'enregistraient pas le son avec les images? Une seule réponse. La langue d'Ovide et Virgile, de Dante et de Leopardi, était passée dans les images.
Histoire du cinéma, Jean-Luc Godard.
Lingua di marmo antico di una cattedrale, lingua di spada e pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare.
Comme dans un film de Godard, seul dans une voiture qui roule sur les autoroutes du néo-capitalisme latin, retour de l'aéroport. Là est resté Moravia, pur parmi ses valises, seul, pilotant son Alfa Romeo, dans un soleil inracontable en rimes non élégiaques parce que céleste, le plus beau soleil de l'année, comme dans un film de Godard, sous ce soleil qui se saignait immobile, unique, le canal du port de Fiumicino, une barque à moteur rentrant inaperçue, des marins napolitains couverts de chiffons de laine, un accident de la route, peu de monde autour.
Pasolini est un communiste à sa manière. Il s'est toujours déclaré comme tel, mais ce n'est pas un homme de parti. Il est antifasciste par nature, je dirais, et par l'histoire. Mais il sent à la fin qu'il y a, encore d'autres interlocuteurs. Parmi ces interlocuteurs, il y a précisément ceux-là même qu'il dénonce. Alors il y a une stratégie tout à fait étrange et très intéressante, Pasolini, c'est qu'il peut à la fois dénoncer un certain groupe idéologique et en même temps appeler à éduquer ce groupe. Et ça, c'est la particularité de Pasolini, c'est-à-dire qu'il ne il ne rejette pas la droite italienne, parce qu'il sait que la droite italienne, c'est le fondement même de la possibilité d'une histoire de l'Italie. Beaucoup plus que la gauche. On peut avoir le regret de le dire ou de le penser, mais quand on regarde l'histoire de l'Italie récente, c'est la droite italienne, au sens non pas de parti politique simplement, hein. C'est pas simplement Berlusconi ou les années Berlusconi, c'est la démocratie chrétienne qui représente nécessairement pour Pasolini cette espèce de doux fascisme qu'il faut aussi solliciter, aussi réveiller, parce que la solution vient aussi du fascisme.
Della Giulia che va la guerra, è il lutto della Giulia che va la guerra.
Salò, ou les 120 journées de Sodome.
Sul ponte di Berati, bandiera nera, la sottoterra, la meglio gioventù la va sottoterra.
Il a aussi la volonté de transformer le fascisme et surtout la jeunesse fasciste, parce qu'il parle en fait plutôt à la jeunesse en réalité, ceux qui plus tard voteront par exemple pour le retour de la droite dans les années 90 en Italie, eh bien il commence à leur parler pour faire en sorte que les fondements qui sont les leurs et qu'ils partagent en particulier dans la mesure où il est de cette culture, puisqu'il a vécu pendant une vingtaine d'années sous le fascisme. Donc sa jeunesse est le fascisme. Donc, le fascisme des jeunes, ou entre guillemets, le fascisme à la Pasolini, des jeunes, il le comprend d'autant plus qu'il l'a vécu, je veux dire, il l'a vécu dans sa chair historiquement.
Et Mussolini a paura del Führer.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Alors, il y a un article dans les lettres luthériennes où il explique que
Jean Duflo.
Son grand problème, c'est pourquoi la faute des pères doit être expiée par une faute des fils. Lui, il se considère comme une espèce de père plus ou moins manqué. Hein. Pourquoi, si vous voulez, les fils doivent payer pour une espèce de péché originel qui est celui qui a amené le fascisme en Italie? Et en même temps, il reconnaît que lui-même, il tombe dans ce piège de l'expiation perpétuelle.
À l'ombre des jeunes filles en fleurs,
salaud.
Ils ne vont pas croire au malheur.
Ou les 120 journées de Sodome.
Elles écoutent la radio, elles boivent du thé au degré zéro de la liberté. Elles ne savent pas que la bourgeoisie n'a jamais hésité même à tuer ses fils.
Il explique quelque chose. Quoi ? Bon, probablement, comme tout le monde...
Le péché originel, je pense qu'il doit avoir peut-être une idée du péché originel.
Oui, alors, il ne croit pas. Il le dit.
Il le dit, mais c'est ambigu.
C'est très ambigu. Il est marqué surtout par le catholicisme de Frioulan, de sa mère, qui est un catholicisme presque païen, très naïf, un proto-catholicisme. Il est fasciné par l'image du Christ. Les figures de la crucifixion abondent hein, chez lui, dans Acatone, Mamaroma. Je ne sais pas si vous voyez Garofalo, Ettore Garofalo, le fils de Mamaroma, de Biancofiore. Vous le voyez à un moment donné, c'est un Christ couché, hein, pratiquement, hein, sur un lit de contention. Puis il y a évidemment l'Évangile, et puis surtout il y a cette espèce de parodie de la crucifixion, de la descente de la croix de Pontormo dans la Ricotta.
Et puis, il y a aussi, on peut superposer, mais ça, Artaud et Nietzsche l'avaient déjà fait, le Christ et Dionysos, puisqu'il y a ce démembrement au début de Médée, le sacrifice humain. Ça va très loin, anthropologiquement et sacralement.
Mais ça c'est l'idée du supplice et du démembrement qu'on voit dans le rite agrarien de Médée. C'est quelque chose qui l'avait frappé énormément. Et là... Là, on revient sur Zigaïna. Alors, Zigaïna, lui, abonde là, dans son sens. Il dit, ben, ça, c'est la figure alchimique par excellence. C'est l'œuvre noire, c'est-à-dire, dans la Tanor, le moment où on quelque chose meurt pour se transfigurer et se survivre.
L'Évangile selon saint Matthieu.
Théâtre, très souvent, il y a l'idée de la disparition et de la fin et du commencement. Oh non, plus précisément...
Hervé Joubert-Laurencin.
Une tragédie qui finit mais ne commence pas. Donc ça revient au même, hein, ça revient à dire qu'à partir du moment où on touche une fin, quelque chose peut commencer. Quand on commence à trouver la limite, quand on trouve une fin, alors on peut commencer à écrire, on peut commencer à penser, on peut commencer à créer. Et donc dans le théâtre, ça se dit sous cette forme extrêmement bizarre de la tragédie, c'est une espèce de fiction, hein, cette tragédie qui finit mais ne commence pas. Et ça, c'est redit à deux ou trois endroits fondamentaux dans les pièces de théâtre, qui est quand même très très curieux, quoi. Voilà, quand on pense à... Même, je sais pas, moi, ça me fait penser à l'œuvre de Michel Foucault, quand Foucault dit cette contestation par les philosophes humanistes qui dit « Vous faites un anti-humanisme, comment pouvez-vous faire un anti-humanisme ?» Il répond « L'humanisme a commencé, l'idée de l'homme a commencé, donc si elle a commencé, elle aura une fin. » Donc cette idée très raisonnable et très rationnelle, elle n'a plus de sens avec la proposition de Pasolini. La proposition de Pasolini est extrêmement étrange et elle est très forte. C'est ce qui a une fin mais qui n'a pas de début. Et je crois que voilà, ça explique sans doute le fait qu'on s'interroge avec raison hein, sur la fin de Pasolini.
Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé par le pneu d'un camion,
pendu par des gosses à un figuier, mais encore avec au moins 6 de ses 7 vies, comme un serpent réduit en bouillie sanglante, une anguille à moitié mangée. Les joues creuses, sous les yeux abattus, les cheveux affreusement clairsemés sur le crâne, les bras amaigris comme ceux d'un enfant, un chat qui ne crève pas, Belmondo qui, au volant de son Alfa Romeo, dans la logique du montage narcissique, se détache du temps et y insère soi-même. En images qui n'ont rien à faire avec l'ennui des heures en rang, avec le lent flamboiement à mort de l'après-midi. La mort n'est pas dans la non-communication, mais dans le fait de ne plus pouvoir être compris.
Pino Pelosi, con i fratelli Borsellino e Johnny,
Pino Pelosi et d'autres avaient décidé de cambrioler Pasolini. Pelosi, qui connaissait l'écrivain, devait l'attirer dans ses filets. Les autres suivaient Pelosi en moto. Pelosi a un rapport sexuel avec Pasolini. Pasolini lui demande une autre prestation, mais Pelosi refuse. C'est donc la querelle et s'ensuit une lutte près de la voiture. Les deux amis de Pelosi viennent l'aider et les trois s'acharnent ensemble sur Pasolini. Puis, ils prennent la fuite. Pelosi panique. La police le retrouve quelques heures plus tard en train de conduire sur le périphérique de Ostia en sens interdit. Après quelques temps, les trois hommes se rétractent. On savait bien que Sansone est un policier. On s'est moqué de lui. Pelosi n'a pas d'alibi. Il conduit la voiture de Pasolini. Il est le dernier à être vu en compagnie de l'écrivain. Il avoue, mais dit l'avoir fait tout seul. Bien qu'il porte une veste parfaitement repassée, que ses mains soient propres et qu'il ne soit pas du tout blessé, sauf deux petites coupures sur son visage.
Ostia.
J'ai connu Chitty il y a à peu près 10 ans, à l'occasion du premier contact, si vous voulez, de Pasolini avec le cinéma. C'était La Notte Brava, un film de Bolognini. Et à ce moment-là, Pasolini ne savait pas ce que c'était que le cinéma. Il en était d'ailleurs très inquiet. Il avait une position d'écrivain un peu à scandale,
poète,
comme ça, à Rome,
une espèce de polémiste.
De Genève régional. Enfin,
Laurent Terzieff.
Oui, et. Et il avait donné un de ses romans à Bolognini, adapté pour le cinéma. Et il était très inquiet. Il découvrait le cinéma. Il voyait arriver deux acteurs français de Paris pour jouer ses ragazzi di vita, enfin ces garçons du Trastevere. Il avait raison d'ailleurs d'être inquiet. Et il y avait avec lui une espèce d'acolyte, n'est-ce pas, de ses équipés nocturnes dans la zone romaine, qui était Chitty, et qui a écrit des scénarios avec lui. Et alors ils ont écrit un scénario ensemble. C'est très simple comme histoire. Ils ont écrit un scénario ensemble et Chitty a eu envie de le tourner parce que c'était une chose qui touchait peut-être davantage Chitty que Pasolini.
Oui, et du reste, on dirait que c'est un film de Pasolini.
Mais Chitty a été l'assistant de tous ces films.
On pourrait vraiment s'y tromper.
Et je vous assure que Chitty était a des dons de scénariste extraordinaires. Moi, je l'ai vu improviser certains soirs de tournage comme ça. Mais comme ça, le soir, après manger, des scénarios extraordinaires. Enfin...
Ostia, le titre du film, c'est aussi une plage très élégante de Rome, c'est aussi une plage très populaire dans certains endroits. Et c'est là où l'action se déroule. Pourquoi
Très crado aussi.
C'est très crado aussi, oui, bien sûr. Il y a les deux.
On voit ça d'ailleurs dans...
On voit ça dans le film, mais il a surtout choisi ces paysages-là.
C'est très bien fait.
Ces paysages de zones et de gens pauvres. On dit que le thème d'Ostia s'apparente beaucoup à celui de Théorème. C'est à peu près la même chose, si vous voulez, mais c'est l'inverse tout de même.
Non, papa,
le sacré n'apparaît pas de la même façon.
Oui, si vous voulez, il y a une espèce de sacralisation d'Hakaton, si vous voulez, mais ça part d'une chose très 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 populaire, une chose très ressentie, très vécue par Chitty. C'est, on peut dire, c'est autobiographique, mais enfin, c'est très transposé poétiquement. Mais ça part non pas justement d'un postulat philosophique, métaphysique comme dans Théorème, mais d'une chose très 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 vécue, d'une espèce de rapport de couple, si vous voulez, de deux frères, mais pas du tout le côté populaire pittoresque, crapuleux qu'on pourrait attendre de d'Hakaton, enfin, mais au contraire les oubliés des oubliettes, enfin les ce serait plutôt Dostoïevski, Pasolini, si vous voulez.
Ordu. T'as plus qu'une putain.
Je vais te tuer. Je vais te tuer, t'entends? T'entends? Je vais te tuer. Bandir. Bandir, hein? Oh, tu m'entends?
Sergio Chitty.
Io voglio dire a Pelosi se conosce questo Sergio e non può negarlo, perché questo Sergio, dopo scoperto che bazzicava.
Je veux demander à Pelosi s'il connaît ce Serge. Et il ne peut pas le nier, parce qu'il fréquentait le même bar que Pelosi. Le bar où a été organisé le vol des bobines de Salon. Donc Pelosi ne peut pas me faire croire qu'il ne le connaît pas. Sinon, je lui démontre le contraire. Pelosi a été embarqué là-dedans par d'autres. Il a dit ce que je savais déjà. J'ai fait un film sur toutes les possibilités que Pasolini a eues de s'échapper. Et je veux me présenter au procès, pas pour être interrogé, mais pour leur poser, moi, des questions. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi, il y a 30 ans, Pasolini a été assassiné, je sais qui l'a tué, mais on ne m'a pas interrogé, parce que eux-mêmes connaissaient la vérité, mais devaient la cacher.
Pier Paolo est mort à 10 mètres de cet endroit où on a tourné la scène. À 10 mètres près, oui. C'est Ostia.
Sur cette mort, je ne veux pas me hasarder là-dessus parce que c'est un sujet très controversé, mais vous savez fort bien qu'il y a eu des interprétations différentes, que Laura Betti, par exemple, et certaines autres personnes ont voulu...
René Scherrer.
Ont voulu établir le complot, l'acte politique pour la mort de Pasolini, dans un sens... de complot délibéré, c'est, plus que, à mon avis, c'est plus qu'improbable. Il y a quelque chose qui peut être un caractère, finalement, de type politique de cette sorte, mais qui, en fait, est plutôt dû au genre de vie, effectivement, au genre de choix presque de destin. Je n'élimine pas cette idée. Ça a été soutenu également par certains de destin lié à cette homosexualité de Pasolini.
Vous allez très loin parce que vous dites aussi qu'au-delà même de l'homosexualité, dans cette façon de vivre, dans cette dérive, il y a une ouverture à l'infini.
Oui, c'est cela. Oui, oui. Le mot d'infini, d'ailleurs, joue un grand rôle dans Pasolini. Je le cite au début, je ne me rappelais plus dans quel contexte. Et effectivement, au niveau non pas de la vie simplement, mais également de la poésie de Pasolini, dans son œuvre, également dans son œuvre cinématographique, dans son œuvre romanesque, il y a toujours cette dimension, cette ouverture, c'est ce rapport à quelque chose d'infini qu'il associe à la création artistique ou littéraire.
Les murs de Sarana.
Lo Yemen era fino a 10 anni fa un paese medievale. Da secoli la sua storia si era.
Il y a 10 ans encore, le Yémen était un pays médiéval. Depuis des siècles, son histoire s'était arrêtée.
La guerra civile tra repubblicani e monarchici.
Avec la guerre civile, entre républicains et monarchistes qui s'est achevée par la victoire des premiers, le Yémen a pris un nouveau départ. Mais le conflit a décimé la jeunesse. Aujourd'hui, les soldats et les ouvriers sont des enfants.
Quale sia la vera volontà di questo popolo è ancora enigmatico. In questo momento, almeno a Sanaa, la capitale, è esploso.
Pourtant, à Sanaa, la capitale, on assiste à l'explosion d'un désir de modernité et de progrès.
Ma non possiamo nasconderci che questo desiderio è entrato nel paese, non è nato.
Mais il est évident que ce désir vient de l'extérieur et n'a pas pris naissance dans ce pays médiéval où la démocratie a été introduite par des minorités révolutionnaires. Le Yémen a accueilli ces idées nouvelles plein de bonne volonté, mais il a dû souffrir des conséquences d'une décision imposée d'en haut.
La rivoluzione repubblicana è stata insieme una rivoluzione socialista. Comme spesso avviene nel terzo mondo.
La révolution a été à la fois républicaine et socialiste, comme souvent dans le tiers monde. Les premiers arrivants étrangers furent les Chinois, descendus, pourrait-on dire, des hautes sphères. C'est à eux que l'on doit les routes qui mènent de la mer à Sanaa et de Sanaa au nord du pays. Leur présence est charismatique et leur corps s'apparente à des apparitions.
Ils remplacent un sous-prolétariat par ce qu'il appelait les barbares. Donc c'est la phase Médée. Et puis tout d'un coup, il entre dans ce moment, poussé peut-être aussi par les exigences de la production cinématographique, dans ce moment où qu'on appelle la trilogie de la vie, où il fait trois films qui sont assez extraordinaires d'ailleurs. Le Décaméron, les Contes de Canterbury et Les Mille et Une Nuits. Et là, il voyage énormément. Et alors, ce qui le frappe énormément, c'est qu'à côté d'un sous-prolétariat africain, asiatique, etc., il rencontre une jeunesse dans les villes qui ressemble de plus en plus à celle qu'il a connue à Rome, qui a comme idée, à Dakar, il parle avec quelqu'un, des gosses qui lui disent « Nous, on veut se marier et avoir une voiture ». Bon, ça casse un peu le mythe du sous-prolétariat qu'il avait.
Di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare.
Le persone che je préfère ne sont pas allées à l'école.
Le persone assolutamente
les personnes absolument simples. Et je ne le dis pas dans un sens rhétorique.
Non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia.
La culture bourgeoise, en Italie, comme en France ou en Espagne, conduit toujours à une forme d'impureté, alors qu'un analphabète a toujours une certaine grâce qui se perd avec la culture.
Et il abjure tout d'un coup cette phase de ce qu'est la trilogie de la vie, mais pour d'autres raisons probablement. Probablement parce qu'il se juge trop optimiste. Et après, bon, ben, c'est salaud. C'est autre chose. Il revient à quelque chose d'essentiel qui est le fascisme est quelque chose d'éternel, mais qui se développe sous des formes différentes. Et que ça peut être la métaphore de la consommation. Ce qui s'est passé à l'époque de la République de Salo, cette consommation des corps, bon, on la retrouve dans la consommation tout court, y compris la consommation de la sexualité, parce que c'est là où il y a toute l'ambiguïté de Pasolini.
Dans ces théories du cinéma, il y a cette phrase dont tout le monde se rappelle, la mort produit un fulgurant montage de notre vie. Voilà, la mort, fulgurant montage de notre vie, et du coup ça donne un sens quand même très grand à l'idée du montage. Donc il a l'air de s'inscrire dans les théoriciens du montage, type Eisenstein et tous les vieilles théories du montage. C'est ce que lui reproche d'ailleurs le philosophe Deleuze. Hein. Quand Deleuze reprend Pasolini, il le reprend énormément pour fonder sa propre philosophie du cinéma quand il la prend de face. C'est un des trois ou quatre auteurs très importants de l'image-mouvement et l'image-temps. Mais ça, il lui reproche, par exemple. Bon voilà, c'est, d'ailleurs, ça continue ce que je disais, il lui fait un peu le même reproche. C'est-à-dire que c'est un peu facile de tout expliquer par la fin. Mais en même temps, tout expliqué par la fin, voilà, donc c'est quelque chose qui est dans... On peut le contester, on peut trouver ça d'ailleurs assez simple, assez facile, mais c'est dans la pensée de Pasolini à plein d'endroits.
Ce vin est frais et beau, vive l'âme de San Antonio! Qu'il est bel et qu'il est lisse, à la santé de celui qui le pisse!
Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si beau de seulement la rêver?
À Sodome, la tolérance est réelle, la douceur est réelle, la compréhension des autres est réelle, et le tout est fondé sur un sens réel de la démocratie. Dans le monde de Sodome, des minorités de tout type trouvent encore leur place, non seulement des minorités hétérosexuelles, mais aussi des minorités noires, des minorités juives, des minorités tziganes qui vivent ici dans la liberté la plus absolue, y compris intérieure. Tandis que Madame la Présidente de la République de Sodome est en train de donner ses explications idéologiques à son hôte philosophe, on entend tout à coup éclater un grand tumulte. C'est le moment où la fête se retourne. Comme nous le verrons bientôt, il va s'agir de transférer toute la population au stade Turin, où on va célébrer la punition du petit jeune et de la gamine qui ont enfreint les règles de Sodome en s'aimant l'un et l'autre. Cette punition est relativement légère, mais en même temps solennelle et exemplaire. C'est pour cela qu'on l'a gardée pour la fin de la fête, un peu pour en faire son couronnement.
Ah, une chose très très belle aussi, donc si on avance comme ça dans ces oxymores, ces oppositions, ces binarités, c'est le rapport par exemple pauvreté-sainteté. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas quelque chose qu'on subit, mais quelque chose qui nous sanctifie.
C'est le côté Assise, Saint-François d'Assise, de Pasolini. C'est son côté chrétien au sens large, chrétien vraisemblablement sans pratique. Il l'a affirmé à plusieurs reprises peut-être sans foi au sens direct du terme, mais animé d'une certaine forme de mystique, et ça aussi il l'a revendiqué, une sorte de mystique chrétienne détachée de tout dogme précis à l'Église, que Pasolini était, dans le sens que Duflo a donné à ce terme, était impie. Il n'était pas athée au sens propre, c'est de l'impiété, c'est de l'hérésie moderne, c'est-à-dire. Et alors, pauvreté, là-dedans, c'est bien au cœur de la pensée chrétienne, cet dépouillement, cette pauvreté qui est liée chez Pasolini à la beauté. La pauvreté est liée à la beauté, en particulier à la beauté du corps. Et cette pauvreté se marque également dans une certaine forme d'archaïsme. Les populations que Pasolini encense, c'est les populations paysannes pauvres, ayant vécu sur un mode ancien. C'est un certain type d'ouvrier appartenant à une classe aujourd'hui disparu, tout au moins dans ses mœurs, dans ses comportements, dans ses habillements, dans sa culture. C'est ça qui est le grand pôle d'attraction sensuelle, poétique, créatif de Pasolini dans l'ensemble de son œuvre.
Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientilo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito.
Mede.
E comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo. Vicino. Felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia innaturale e non sia posseduto da un dio? E così è il mare, in questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle. Che cosa vedi, eh? Forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle tre del pomeriggio.
Il y a aussi poétiquement une construction qui essaie de rattraper
Jean-Paul Manganaro,
une culture italienne très profonde et qui est celle au fond de l'enfer de Dante. Il y a aussi cette volonté de descendre dans l'enfer d'une situation qui est à la fois anthropologique, historique, sociale. Et y descendre justement à travers le plus grand interprète de cette situation qui a été celle de l'Italie au départ de sa langue, au fond. La situation pourrait être très, très proche. Il y a une situation de très grande bourgeoisie à Florence à l'époque de Dante qui est dans la déconfiture qui va amener aux dictatures à venir, enfin. Et effectivement, il y a un rapprochement possible entre le passé et l'avenir, mais ce qui est important, je trouve, c'est que le médium créatif, poétique qu'il a choisi rattrape aussi une situation particulière de la culture italienne qui est ça de vue à travers l'enfer de Dante, au fond. Et dans le théâtre, souvent, il y a ces plongées à travers l'inconscient dans des enfers impossibles, en fait. Dans tout son théâtre, on voit cette animation du profond, du caverneux au fond, du creux infini qu'est l'humain, donc on peut lui donner le nom d'inconscient.
C'est une sorte de magma, en fait, une sorte de magma, de lave, enfin,
oui,
une fusion qui est très profonde.
Mais où il existe des choses que l'on connaît déjà, en fait. Ça, c'est important. Et j'ai toujours subi la fascination de cette aspiration dantesque chez Pasolini.
Canto 99.
Disordini e baruffe, anche Maneschi e tutta la famiglia ci rimette. Una stirpe sorge da uno solo, come pensate adesso. Il cognome, le nove armi. La parola paterna è compassione. Filiale, devozione. La fraterna... Le tette cinguettano in coro. La proporzione dei rami armonizza come chiave. Diciamo.
C'est Michel Foucault qui avait écrit « Non au sexe roi ». C'était précisément un refus d'un certain mode de libération sexuelle telle qu'elle avait découlé de ces mouvements d'émancipation, de libération de l'homosexualité, etc. Ce « Non au sexe roi » était contemporain d'un papier également ou d'une déclaration que Foucault avait écrit à propos de Comizi d'Amore, c'est où il fait un grand éloge de ce petit film. Il montrait bien comment il y avait dans cette forme d'écriture, cette forme de sensibilité de Pasolini, quelque chose qui était tout à fait différent de ce qu'on a considéré comme la révolution du sexe, sa récupération par le mouvement commercial, par la consommation, etc.
Dans Pasolini, il y a, on pourrait dire, une sorte d'anticipation biopolitique. Et donc, le sentiment que la vie entière est prise dans les processus d'exploitation.
Tony Negri.
Et qu'il faut aller regarder là où sont les moments de révolte, les moments de conception d'un autre, voilà, qui peut devenir essentiel dans la vie politique et aussi dans l'imagination, non, dans la capacité de développer à travers l'imagination une utopie concrète. Voilà, tout ça, c'est vrai. Dirais-je qu'en Italie, les choses sont allées dans une autre manière.
Le geste sodomitique est le plus absolu parce qu'il contient de mortel pour l'espèce humaine. Et le plus ambigu puisqu'il accepte les normes sociales pour les enfreindre.
Il y a quelque chose de plus monstrueux que le geste du sodomite. C'est le geste du bourreau.
C'est vrai, mais le geste du sodomite a l'avantage de pouvoir être répété des milliers de fois.
On peut, selon moi, trouver une façon de réitérer aussi le geste du bourreau.
La réception de Salo n'est pas non plus à l'heure actuelle commode. Donc il y a absence de réception de ce film qui est très 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 difficile à saisir, à accepter, qui dans une certaine part touche à ce que, justement, à travers cet irreprésentable, on peut appeler avec Lyotard le sublime, quelque chose d'une grandeur qui fait que l'on éprouve un désagrément à l'intérieur, même du plaisir que l'on ressent au spectacle. Et en même temps, d'un point de vue d'interprétation, il y a, je crois, maintenu chez Pasolini, intentionnellement, cette fois très certainement, une certaine forme d'ambiguïté et de, j'irais jusqu'à dire, de rage, justement. Le mot lui appartient, puisque un de ses premiers films avait été La Rabia, la rage. Donc une rage contre la société de consommation, contre cette destruction du corps pratiquée par la jeunesse elle-même sur elle-même.
Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ?
Dans Pétrole, tout ce cycle, Vision, il y en a un personnage qui est appelé le, non pas la merde, mais le merda. Or c'est ça. Or, au fond, il y a, je crois, en arrière-fond de ces scènes insoutenables, plus encore que les tortures, c'est l'insoutenable de ces excréments qui sont présentés et consommés à table. Il y a une sorte de rage contre une humanité qui se détruit elle-même.
Les anticipations de Pasolini ont été des anticipations poétiques qui sont restées dehors de la praxis comment, du faire comment, des gens et du politique, même du politique subversif. En plus, il y a eu aussi la chose extrêmement lourde de la position que Pasolini a assumée en 68. Et
contre l'avortement, contre les étudiants.
Contre les étudiants, là, c'était extrêmement dur.
Au nom du peuple, justement.
Au nom du peuple, voilà. Et il y a une période dans laquelle Pasolini ne pouvait pas... Il ne pouvait pas circuler beaucoup hein, dans les universités et dans les milieux comme ça, des gens, comment dire, des gens révolutionnaires, voilà.
Mais il est attaqué autant par les gens de droite que par les gens de gauche.
Oui, ça, c'est... Mais lui, il essayait toujours, non, de faire des homologies, de mettre ensemble les choses, non. Mais selon moi, il n'avait... En réalité, Pasolini à Rome, il devient un autre... Quand il se transfère de Rebibbia, où il devient ami de Moravia, de Tula, la grande bande littéraire de gauche italien, non ? Et là, c'est vraiment là, il s'immerge dans une réalité qui est extrêmement importante pour lui, parce qu'en plus, il ressort de ça en tant qu'un génial cinéaste. Parce que c'était nécessaire pour lui passer à travers ces milieux de forte bourgeoisie pour avoir les moyens. Le cinéma, la poésie, on peut la faire chez soi, hein. mais le cinéma, il faut avoir des moyens énormes, en plus, pour le faire. Donc, selon moi, enfin, il y a eu une espèce de, si vous voulez, providence, non ? qui a aidé, ou si vous voulez, le destin, non, qui a amené Pasolini à exprimer cette formidable capacité d'être cinéaste, donc de transformer sa poésie dans l'image.
Cavalli Pumaro!
Malheur au pêcheur qui meurt en état de péché mortel.
Le Décaméron.
On dit que lorsque la mort approche, celui qui se repent sera sauvé.
Et comment on nous recevra dans l'endroit où on ira après la mort? Tu peux me le dire? Réponds.
Mon pauvre Meuccio, personne n'en sait rien.
L'enfer ou le paradis? Comment ce sera, Tingoccio? T'as une idée?
J'ai bien l'impression que tu tiens absolument à me voir mourir.
Mais qui le sait? Je peux très bien mourir le premier. En fait, on est entre ses mains.
Meuccio,
que veux-tu?
On va se faire une promesse. Le premier qui meurt devra faire savoir à celui qui est encore vivant comment c'est après la mort.
Tingoccio, je suis d'accord.
Tu me le jures?
Je te le jure.
Je le jure aussi.
Parfois, on dit que c'est une tétralogie de la mort. Enfin, la trilogie de la vie plus Salo, ça ferait une sorte de tétralogie parce que déjà, dans les trois films
Hervé Joubert-Laurent,
qui sont baptisés trilogie de la vie, mais quand même in extremis par Pasolini après coup, il n'avait pas prévu de les faire comme ça, on peut aussi y voir des prémices de Salo, y voir des choses vraiment abominables, des choses très noires qui sont cachées à l'intérieur du vitalisme de surface. Hein. Donc, ce sont des films effectivement vitalistes, moi je pourrais défendre ça, mais qui ont aussi cet aspect extrêmement noir, parce qu'ils sont de l'époque de la noirceur, hein, notamment à partir du deuxième. Il y a l'effet Ninetto, hein, puisque le dada du sonnet, l'obi del sonetto, les sonnets secrets que Pasolini écrit pour lui-même et qu'il ne publie jamais, qui sont après la séparation de Ninetto d'Avoli. Enfin, il marque très exactement le début de la noirceur. Donc la fin de la vie de Pasolini, c'est ça aussi. C'est aussi un changement de sentimentalité, de sexualité, pas tout à fait, mais quand même. Il y a une sexualité sans doute qui devient plus dans la noirceur, ou plus dans la douleur, ou plus dans la violence peut-être, dans la multiplication des amants. Bon, qui fait que peut-être probablement d'une manière ou d'une autre, intégralement ou un petit peu par piège ou par meurtre crapuleux, il en est mort. Hein, c'est-à-dire, de toute façon, et c'est bien en prenant un garçon prostitué au bord de la garde principale de Rome qu'il est mort. Donc, d'une manière ou d'une autre, il en est mort.
Peut-être parlera-t-on aussi de la fameuse thèse de Zigaïna, à savoir que pour des raisons presque ésotériques, il avait décidé de mourir en 69 et qu'il aurait eu
Jean Duflo.
Cette délicatesse de s'offrir un sursis à cause de cette alliance presque amoureuse avec la Calas.
C'est l'idée alchimique du chaudron chez Zigeuner.
Oui, je peux vous dire que j'ai vu dans sa bibliothèque pas mal de livres d'alchimie. Bon, alors, il lisait Jung, effectivement, mais pas seulement. Mircea Eliade était son livre de chevet. Mais j'ai vu, moi, des bouquins absolument étonnants, comme le marteau des sorcières, Paracelse, ou alors des kabbalistes du 15e, 16e siècle, kabbalistes juifs. Donc il y avait cette espèce cette tendance à l'ésotérisme. Mais moi je pense que c'était plutôt poétique et pas du tout comme on a pu le croire à un moment donné, la raison pour laquelle il aurait programmé sa mort, comme une espèce
Dante,
de rite.
Parce que Dante faisait la même chose. Dans la Divine Comédie, il y a beaucoup de références ésotériques.
Oui, il y a des choses très curieuses dans ce qu'il écrit. On a l'impression effectivement de temps en temps qu'il l'a codifié. C'est comme il appelait ça, c'est un effort passionné, hein, des répétitions. Il les codait, alors d'après Zigeuner, il veut appliquer ce rituel sacré qu'on retrouve dans la religion de Cybèle et que reprend Mircea Eliade, à savoir un sacrifice de nuit dans un jour particulièrement sacré à une date qui correspondrait, d'après Zigeuner,
au calendrier perpétuel.
Effectivement, il est mort le 2 novembre, jour des morts. Hein, ça, on pourrait dire, tiens, il y a quand même une analogie troublante. Puis il y a d'autres choses, il y a plein de choses. Dès 62, il y a curieuse allusion à sa propre mort. Il y a plein de poèmes où il décrit sa mort à Ostie. Si vous allez à l'endroit où il a été assassiné, à Ostie, quelqu'un a eu l'idée de parsemer le parcours qui va vers le monument qu'on a érigé à l'endroit même où il a été massacré. Il y a des poèmes qui sont vraiment des poèmes presque prophétiques. Par exemple, le poème Patmos, qui est un poème en hommage à ces morts de la Banque d'Agriculture. Bon, le poème Patmos est composé d'extraits de l'Apocalypse de Saint Jean et d'une présentation des 14 personnages qui sont morts. Or, les seuls personnages parmi ces 14 négociants, d'ailleurs, de la Banque d'Agriculture, qui ont droit, dans leur prénom, à une parenthèse, c'est Paolo d'Andena et Piero Giulietti. Bon. Paolo Piero, Pier Paolo, c'est le prénom de Pasolini. Alors, Zigeuner prétend que c'est là l'histoire des parenthèses, c'est une astuce sémantique pleine de signification et qui serait presque « je suis encore en vie, mais je finirai comme les douze autres victimes de l'attentat. »
Est-ce qu'il y a de nombreux poèmes ou...
Il y a plein d'indices comme ça, je dirais, il n'y a pas seulement le poème Patmos, mais il y a également cette fascination qu'il avait pour tout ce qu'il a, Mircea Eliade appelle les mythes résurrectionnels. Et notamment, Zigeuner prétend que plusieurs fois, il l'a accompagné dans une basilique, une proto-basilique chrétienne qui est celle d'Aquileia, où il y a la mosaïque la plus grande d'Europe en superficie. Et cette mosaïque, c'est le mythe de Jonas. Hein, la mort et la résurrection au bout de 3 jours. Et alors, c'est facile. À partir du moment où vous avez en tête qu'il a programmé sa mort, vous pouvez trouver 100 preuves de l'exactitude de cette thèse.
Dentro i fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un pazzo, poi lo strozzo. sa mano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Vieni figlia della luna, della stella matutina.
Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Coordination, Anne-Vanessa Prévost. Deuxième partie, Pasolini, le sacrifié de la société. Avec Anne Wiazemski, Tony Negri, Jean Duflo, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Secati, Jean-Paul Manganaro, René Scherrer. Avec les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Sergio Citti, Pierre Clementi, Walter Citti, Sergei Parajanov, Franco Citti, Ninetto Davoli, Pino Pelozzi.
Les garçons là-bas dans le champ donnent la chasse aux bourgeois, les découpent en morceaux, ils fracassent les têtes de leurs ennemis et de leurs amis.
Lecture Nicole Doguet, Damien Manivelle, Jean-René Lemoine. Porno Théo Colossal, scénario posthume de Pasolini. Lecture Jeanne Moreau, traduction Hervé Joubert-Laurencin. Remerciements Lisa Narboni et le festival Premier Plan d'Angers. Mixage Alain Joubert. Musique Ostia, The Death of Pasolini, The Coil. Morisset, You Have Killed Me. Les mauvais garçons sur le champ, Pasolini, Anna Prucnal. Maria Callas, aria finale de Manon Lescaut.
Ragazzi, giù nel canto, non possego, no, memoria, percevendono.
Cette émission a été diffusée la première fois le 4 février 2009 sur France Culture. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.